Il est 14h02, 7 Europe 1. Très bel après-midi. Tout de suite, on retrouve Alexia Laroche-Joubert. Nous allons passer ensemble ce début d'après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Aujourd'hui, un thème de circonstance, la Saint-Valentin peut-elle entretenir le désir amoureux? Eh oui, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Vous l'aimez tendrement, à la folie, et vous voulez que ce jour reste inoubliable. En un mot, c'est le moment ou jamais de réanimer le feu qui habite votre désir amoureux. Mais voilà, comment vous y prendre pour souffler sur les braises? Vous avez bien pensé au traditionnel bouquet de fleurs, mais c'est trop banal. Le diamant, c'est trop cher. Le repas gastronomique aux chandelles, c'était l'année dernière. Alors quoi? Et si finalement votre kit de l'amour sortait tout droit de votre imagination? Écoutons vos avis au micro d'Europe 1.
Les déclarations, elles n'ont pas besoin d'être forcément hallucinantes ou fantastiques pour être belles à partir du moment où elles sont sincères. Donc un simple « je t'aime » quand il est sincère, bah c'est une belle déclaration, non? La Saint-Valentin, moi je préfère me dire que c'est une occasion de se faire un petit dîner avec son amoureux, de se redire qu'on s'aime. Si ça peut être tous les jours, bien sûr c'est l'idéal. Et puis si ça peut être l'occasion, et ben bah, c'est pas plus mal.
Éviter de tomber dans la routine, donc savoir surprendre l'autre à tout moment et à tout instant. C'est une tâche facile, il faut avoir un peu d'imagination. Partir en week-end, le voyage ou l'opéra.
Ça se travaille d'abord, de vivre ensemble. Je pense que d'abord, il y a manifestement les qualités de ma femme, où elle l'a très bien dit l'autre jour, je risque plus l'infarctus avec elle que la routine. Parce qu'elle a une certaine spontanéité, une imagination au pouvoir, etc.
Ça rappelle aussi un peu à l'ordre. Ça donne une excuse pour se retrouver et tout, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'après, soit on rentre dans le trip, on se fait des cadeaux, etc. Mais d'un autre côté, ça fait pas comme ça qu'on prouve qu'il y a quelqu'un qu'on aime. Hein. Le couple, il évolue. Faut surtout pas se laisser manger par chaque chose qui arrive, les enfants, le boulot.
Alors fleurs, parfums d'ambiance, week-end en amoureux, la Saint-Valentin est parfois un vrai casse-tête, surtout quand on s'est laissé prendre de court. Alors quelle idée fun ou folle viendra éclairer cet hymne à l'amour pour qu'il dure toujours, évidemment. Vous avez ou avez une idée originale pour déclarer votre flamme? Nous attendons avec impatience vos témoignages, vos appels au 01 42 32 15 15 ou par mail à europe1.fr.
Aujourd'hui avec nous, Arielle Dombasle, comédienne, chanteuse, qui chante et enchante le Crazy Horse. En ce moment et jusqu'au 21 février, des prolongations. Bonjour Arielle.
Bonjour.
Notre deuxième invité, Nicolas Garraud, fondateur et président de l'agence Apothéo Surprise, une entreprise dédiée à la déclaration d'amour. C'est limite d'utilité publique. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, la sexologue, Ghislaine Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors Arielle, moi quand j'ai vu la couverture du Paris Match la semaine dernière, je me suis dit c'est une magnifique, quand vous étiez seins nus, me suis dit c'est une magnifique déclaration d'amour à son homme. C'est lui dire « Regarde, comme je suis belle et désirable, et en fin de compte, c'est toi qui es avec moi. » Est-ce que c'est ça?
Bon, il n'a pas besoin de la couverture de Paris Match pour voir mes seins, heureusement. Non, ça, ce serait redoutable que j'ai besoin de ce recours-là. Heureusement, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance en amour. J'aime quelqu'un depuis infiniment longtemps, et le désir et le plaisir sont là. Tous les jours.
Mais justement, vous êtes une romantique. Comment vous cataloguez en fin de compte ce que vous êtes en amour?
Je dirais que je crois qu'il y a des gens qui aiment l'amour, qui sont amoureux de l'amour et pour qui c'est l'essentiel de la vie. Et ces gens-là sont des amoureux. Il y a d'autres gens pour qui l'amour n'est pas l'essentiel de la vie. Je dirais plutôt que je mettrais les gens dans ces deux catégories. Il y a des gens pour qui c'est la grande affaire. Et ben pour moi, depuis mon enfance, je me disais, j'étais très attirée, j'avais ce désir de grandir pour connaître l'amour, j'étais très excitée à l'idée de l'amour, et c'est resté comme ça. Pour moi, c'est le cœur, c'est le centre de la vie.
Mais alors justement, quand vous dites je suis une amoureuse de l'amour, est-ce que c'est sur un homme? Ou est-ce que c'est juste le sentiment incroyablement agréable,
voilà,
de se dire « j'aime » ?
Alors, il y a déjà cette idée, ce désir en soi d'être amoureux, de l'être, et cet abandon que ça va devoir... L'amour, évidemment, c'est tellement complexe. Et il y a des moments où on est complètement dépossédé de soi. Il faut aussi accepter de ne plus être maître tout à fait de sa vie, parce que c'est l'amour qui commande, c'est le désir, c'est la passion, c'est souvent la douleur, c'est le tumulte, quoi. C'est pas une chose raisonnable, pépère, l'amour. C'est quelque chose qui c'est du feu.
Mais justement, c'est ça. Enfin, vous me volez les questions. c'est comme si d'un seul coup vous aviez été éduqué. Alors, je me demande, éduqué à cet abandon, parce que pour moi, en effet, il y a un abandon. Il y a une forme de confiance quand même.
Oui, c'est ça.
Et à la fois de méfiance suffisante pour attiser le désir. Donc, c'est un doux mélange. Est-ce que vous avez eu l'impression que dans votre éducation, on vous a appris ça?
Mais je ne sais pas si on me l'a appris, parce que moi, j'ai malheureusement une vie, le début de ma vie est très tragique, puisque j'ai vu tout le contraire. J'ai vu ma mère trompée, malheureuse, pleurant, puis qui meurt. Et puis la rivale de ma mère triompher, épouser mon père. Vous voyez, ça, c'est les ravages de l'amour. Et l'amour, c'est ça, c'est pas un truc fleur bleue. L'amour, c'est violent, c'est terrible. Et c'est une chose, en même temps, qui peut ravager, qui peut tuer d'ailleurs, c'est bon. Alors moi, j'ai voulu ma vie amoureuse réussie. Et je me suis dit, je vais mettre ça au poste de commande. Rien ne va pouvoir faire que ma vie soit ratée, voilà. Mais c'est une décision, mais j'ai eu la chance de trouver une petite entreprise. Oui.
Et c'est pour ça que je me retourne vers Nicolas Garraud, qui lui en a créé, parce que de cette petite entreprise incarnée par vous est magnifiquement incarnée. Moi, j'adore les amoureuses. Vous en avez fait une entreprise. Pourquoi?
Mais tout simplement parce que je m'étais rendu compte que beaucoup d'agents s'occupaient de la rencontre et du mariage, mais qu'absolument personne ne s'occupait des amoureux en manque d'imagination. Et une étude avait montré que 80% des femmes étaient déçues de la manière dont elles avaient été demandées en mariage. Souvent, elles reprochent à leur chéri. Eh oui, malheureusement, elles reprochent souvent à leur chéri un manque d'imagination.
Ils
se creusent souvent la tête pour trouver des choses un petit peu originales, pour sortir de l'ordinaire, mais ils ont du mal à sortir du traditionnel restaurant avec la bague en fin de repas. Donc, j'ai décidé de les aider et de mettre en place une trentaine de prestations scénarisées clés en main, qui puissent leur permettre d'effectuer soit une demande en mariage ou soit une déclaration d'amour.
En fait, c'est des mises en scène.
Exactement. Justement, puisque vous avez un amour aussi intact, vous avez été demandé en mariage comment? Parce que c'était il y a quelques années, c'était
il y a un petit moment récemment par rapport à votre histoire. Enfin, oui, en 93, c'est ça. Donc ça fait quand même
13 ans. Vous donnez l'impression d'un jeune couple, c'est pour ça que c'est génial. Vous avez été demandé comment?
Eh bien, vous savez, j'ai été surtout une maîtresse secrète pendant très longtemps, donc je ne sais pas. Moi, j'avais toujours l'idée que j'aurais un mariage délicieux qui serait le plus beau jour de ma vie, et voilà. Mais c'est vrai que j'ai vécu 7 ans en Backstreet Girl, c'est-à-dire amour caché. C'était tout à fait une autre aventure aussi.
Et on attend le jour où justement on vous dit « je t'aime et c'est toi que j'épouse ». On l'attend ce jour-là?
Mais c'est-à-dire que non, moi non. Je voulais être adorée et adorée moi-même. Et ça s'est passé comme ça, c'est de l'ordre un peu du miracle aussi, l'attirance des corps. Bon, c'est formidable. Et puis je ne sais pas, on s'est mariés, un jour, voilà. En juin, à Saint-Paul-de-Vence. C'était un jour extraordinaire. J'adore. J'aime bien l'idée. En effet, monsieur a créé cette entreprise, mais il faut mettre en scène sa vie aussi. Ça, c'est une des clés de l'amour.
Alors justement, docteur Ghislaine Paris, est-ce que c'est la recette, la mise en scène?
Pourquoi pas? Mais moi, ce que je rajouterais peut-être pour compléter ce que mon voisin a dit, c'est que cette mise en scène, on peut se faire aider pour la créer, bien sûr, mais il y a quelque chose qu'il faut trouver en soi. Hein. Et je pense qu'une aide peut être intéressante, mais qu'il y a quelque chose. Alors, moi, je rebondis sur ce que Ariel a dit, et je suis tout à fait d'accord avec elle. La réussite, c'est d'être amoureux de l'amour, hein, et c'est lui laisser surtout une place importante dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'on est dévoré par des tas de choses qui nous détournent? Parce qu'on n'y accorde pas assez d'importance, tout simplement.
Hein. Alors c'est quoi? C'est une définition de l'ordre des priorités, l'amour?
Voilà, c'est ça. C'est une échelle de valeurs. Hein, on a tous des échelles de valeurs internes, intimes, qui ne sont absolument pas normatives, hein, qui sont propres à chacun. Et il ne faut pas s'étonner si, quelquefois, on voit disparaître un sentiment amoureux, un désir, un intérêt pour une relation, si, effectivement, on lui a laissé une place, la portion congrue, hein, ou le dernier barreau de l'échelle. Et, effectivement, ça passe à la trappe. Hein, on ne peut pas récupérer ça.
Alors la Saint-Valentin est-elle bénéfique pour le coup? Parce qu'on est le 14 février. Juste, est-ce que c'est bien au final?
Écoutez, moi c'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses. On parle de commerce, pourquoi pas, effectivement. Bon, sans doute il y a une récupération commerciale. C'est inévitable dans notre société, hein, je crois. Non, je pense que oui, pourquoi? Ça ne serait pas... nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de ritualisation, de symbolique. Une date qui revient chaque année, on est très attaché aux anniversaires, aux fêtes, aux rituels, et pourquoi pas quelque chose qui fête l'amour, parce que justement, quelquefois, on oublie. Hein. Donc c'est un rappel, c'est le rappel que ça a de l'importance. Hein.
Nicolas Garraud, est-ce que ce soir, vous avez préparé une surprise pour je ne sais pas si on peut dire des clients, on va dire des amoureux, parce que c'est plus joli, ça fait moins commercial.
Oui, justement. Je parle souvent d'eux en tant qu'amoureux, oui. Oui, c'est vrai que le 14 février reste une date, malgré tout, qui a un aspect un petit peu commercial. Mais si les messieurs oublient de fêter cette fête-là, les dames ne sont pas forcément très contentes. Ça reste une date incontournable pour laquelle on se souvient tous de l'amour. Donc oui, on organise plusieurs scénarios très romantiques, notamment un lâcher de roses sur un petit yacht. Les amoureux dînent à la bougie en
amoureux.
Vous
avez ça ce soir? Il y a quelqu'un qui va se retrouver avec un monceau de roses.
Ils vont dîner en amoureux, donc madame n'est pas au courant. Dans 90%, c'est le monsieur qui fait une surprise à la dame. On reste un petit peu dans les clichés, mais c'est encore le...
Ah oui, il y a peu de femmes qui vous contactent pour des surprises.
10% à peu près.
C'est très peu. Je suis très surprise là.
C'est très peu, mais pourtant parfois le chiffre surprend, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que certains pensent que 10% c'est quand même un chiffre plutôt important. C'est vrai que dans l'imaginaire des gens, c'est toujours l'homme qui doit faire la surprise à la femme. Et non, on voit de plus en plus de jeunes femmes qui font appel à nous et qui sont souvent très surprenantes.
Alors, vous dites jeunes femmes, parce que ça m'intéresse, que moi en l'occurrence, par exemple, le week-end dernier, j'ai emmené en surprise mon amoureux à l'hôtel à Paris. Voilà, juste à celui qui est sur les Champs-Élysées.
D'accord.
Et donc, est-ce que c'est... alors, je vais m'estimer être une jeune femme. Est-ce que c'est un élément évolutif qui est de dire qu'en fin de compte, les femmes prennent de plus en plus le pouvoir sur cette phase de séduction et que la Saint-Valentin, c'est pas juste la femme attentiste, mais la femme active. Oh là, Gislaine Paris...
Je vais réagir par rapport au mot pouvoir, parce que c'est dommage de mettre le pouvoir dans l'affaire. Non, je pense qu'effectivement, vous avez raison, de plus en plus, il y a une tendance qui évolue, mais il faut... rappeler qu'ici on parle de romantisme, de rituel, et ça fait référence à notre culture, et notre culture, les origines de notre culture, c'est effectivement la position masculine. Donc même si c'est un peu derrière nous, même si c'est effectivement on peut considérer ça comme désuet et n'ayant plus de sens, il y a encore quelque chose qui reste accroché, et moi je le rencontre très souvent, même avec de très très jeunes filles. Hein, et de très très jeunes hommes qui arrivent à voir comme ça des réminiscences du passé et qui y restent accrochés justement au niveau des rituels. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas mal que les choses s'inversent, hein, bien évidemment.
Et jusqu'à 15h, on parle d'amour et de désir. Alors n'hésitez pas, Alexia Laroche-Joubert attend vos réactions, vos témoignages et surtout vos déclarations au 01 42 32 15 15.
Aujourd'hui pour deux briques, t'as plus rien? Eh ben moi je dis, aujourd'hui pour presque rien... Tu peux avoir deux briques.
Chez U, jusqu'au 24 février, le lot de deux briques d'un litre de velouté aux neuf légumes ou soupe moulinée de légumes variés Knorr est à 2,86€, soit 1,43€ le litre, avec en plus 30 points carte U.
U, les nouveaux commerçants.
Et si vous passiez au U-commerce?
Une fissure sur un pare-brise commence presque toujours par un petit impact. Aujourd'hui, il y a au moins 5 millions de voitures qui ont un impact sur le pare-brise. Et oui, c'est 5 millions de fissures en puissance. Chez Carglass, on répare les pare-brises pour éviter les fissures. En plus, avec votre assurance brise-glace, le plus souvent, ça ne coûte rien.
Appelez Carglass au 0800 77 24 24.
Carglass répare, Carglass remplace.
Derrière les grandes réussites, il y a toujours des hommes et des femmes. Aujourd'hui, Darty recrute et forme. Si vous êtes technicien de centre d'appel ou en service après-vente... Spécialisé en multimédia, en réseau, en électronique grand public ou en électroménager, téléphonez au numéro vert 0805 905 200, 0805 905 200, du lundi au vendredi de 7h à 20h. Darty, contrat de confiance oblige.
Darty. Quelques conseils pour réussir votre séjour au ski.
Ne pas consacrer un dixième de seconde à rechercher un moniteur de ski diplômé.
ni pour vous, ni pour vos enfants. Ne s'occupez de rien et profitez de tout puisque vous êtes au Club Med.
À l'Alpe d'Huez, la Sarenne, par exemple. En ce moment, le Club Med vous offre 100 euros par personne sur votre séjour en réservant au 0810 810 810 prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Club Med, il reste tant de monde à découvrir.
C'est difficile de faire des économies ?
Bien sûr que non. Faire des économies peut être la chose la plus simple du monde. Chez Intermarché, pendant l'opération Les Gratuits, eh bien, vous achetez un produit et on vous en offre une partie. Si, si, on vous l'offre, voilà, c'est cadeau. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire plus simple que ça.
L'opération Les Gratuits, c'est du 13 au 24 février dans les Intermarchés et les Écomarchés participants.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Parlons-nous.
Vous êtes avec Alexia Laroche-Aubert dans Racontons-nous, comment entretenir le désir amoureux, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors si vous souhaitez faire une déclaration d'amour originale à l'élu de votre cœur en direct dans l'émission, vous avez jusqu'à 15h. Et si pour vous le désir amoureux doit s'entretenir au quotidien, nous attendons vos témoignages par mail à europe1.fr et au 01 42 32 15 15.
Alors Ariel, donc 14 février, est-ce que vous avez dit quelque chose à Bernard Henry ce matin ?
Eh bien justement pas, mais vous savez, j'en fais assez. Je suis nue au Crazy Horse tous les soirs en ce moment. Alors, et le 14 février évidemment, c'est la salle éclate encore plus.
Vous pensez que les hommes qui viennent ce soir viennent offrir, qu'est-ce qu'ils viennent offrir justement à leurs femmes pour la Saint-Valentin, ceux qui seront là ce soir ?
Oui, là c'est tout à fait spécial parce que bon, c'est un établissement qui se veut le temple du désir. Et de la beauté du nu. Donc c'est un endroit très spécial. Bon, mais c'est un endroit symbolique d'évocation, de voyage dans l'imaginaire. C'est surtout ça. On sait à quel point le désir entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose de très complexe, de très violent, de très difficile à cerner. Donc il se trouve que le 14 février c'est la fête de l'amour, mais c'est la fête de l'amour dans sa grande amplitude.
Et quand Bernard Henry vous a découvert, parce que je sais qu'il était là lundi, je sais pas s'il vient tous les soirs, mais il était là lundi soir, qu'est-ce qu'il vous a dit après? Est-ce que d'un coup c'est un désir nouveau?
Non, mais
est-ce qu'il s'est dit tu es belle? Enfin, qu'on dit à sa femme à ce moment-là?
Bernard Henry est un grand intellectuel qui donc est qui défend la veuve et l'orphelin et les grandes causes du monde. Il est marié à une actrice, moi, et donc ce n'est pas tellement facile. C'est toujours très très compliqué. Moi, je suis des personnages de fiction, et d'ailleurs sur la scène du Crazy Horse, je m'appelle Dolores Sugar Rose.
Oui, vous êtes un personnage en effet.
Pour moi, c'est de la fiction. Je joue des tableaux où ce n'est plus moi. C'est moi sans être moi. C'est fictionnel.
Et est-ce qu'on est une femme quand on est une femme comédienne justement dans sa relation amoureuse? Est-ce qu'on est une comédienne ou est-ce qu'on vous jouait des rôles quelquefois? Est-ce que vous interprétez des rôles?
Non, mais je crois que d'une manière générale, toutes les femmes et toutes les femmes, les amoureuses savent très bien que ne serait-ce que changer une robe ou de changer tout est mis en scène. Enfin, on essaye de se mettre au mieux, n'est-ce pas, de présenter le meilleur de soi à l'autre pour exciter le désir. C'est aussi quelque chose de que l'on fait automatiquement, et on revêt ses plus beaux plumages pour attirer l'autre.
Alors justement, docteur Gilles Parlis, comment on fait pour entretenir cette phase passionnelle?
Quelle question difficile.
Je sais, parce que vous dites qu'en fait, bizarrement, c'est dans la phase passionnelle, donc au début de la relation, qu'on fait le plus d'efforts.
Mais oui, c'est assez paradoxal, parce que la phase passionnelle, la phase du début, le désir est quasiment tout le temps là. Il est très fort, il est intense, c'est ce que disait Ariel tout à l'heure. Il est dévorant, il peut même être violent, etc. C'est une tornade et on n'a absolument rien besoin de faire. Et pourtant, c'est là où on dépense le plus de talent pour se parer, pour effectivement essayer de séduire l'autre. Bon.
Ensuite, mais est-ce pas peur justement que ça ne fonctionne pas au début?
Non, je crois qu'on est emporté par ce tourbillon. On est effectivement, on mélange le réel et l'imaginaire. On est dans cette position proche de l'art, hein, ou de l'artiste, de la création artistique. On est dans le fantasme, hein, dans cette phase-là. Après, ça change. Effectivement, on retombe au niveau du réel. Et c'est là où ça devient difficile. Hein. Effectivement, aussi, il y a j'aime pas trop le mot de travail, hein, ni d'effort, mais s'il y a quelque chose à faire, on va mettre création, justement. Il y a une élaboration à obtenir, mais c'est à ce moment-là. Et là, on parle de jeu. Alors, effectivement, Ariel sur scène est une artiste. Et je crois que vous mélangez un peu la position, la création artistique et ce qui se passe dans sa sphère privée. Même s'il y a effectivement des parallèles à faire. Dans la sphère privée, il y a effectivement un jeu, une parade amoureuse, un jeu de rôle. Il faut prendre effectivement un rôle et c'est pas de l'inauthenticité, hein. C'est nécessaire pour que le désir soit là. Voilà la, enfin, la recette.
Écoutez, moi j'ai très envie de lire le livre de Guylaine Paris parce qu'elle en parle très bien. C'est vraiment ça, c'est ce que les gens parfois oublie, c'est que le jeu, ça fait partie de la civilisation, de l'intelligence du cœur et du corps. C'est savoir se rendre attrayant, tout simplement. Il faut, voilà.
Avis aux auditeurs, justement, si vous aviez envie d'être attractif jusqu'à 15h, n'hésitez pas à apporter vos réactions, à faire vos déclarations au 01 42 32 15 15 et sur europe1.fr.
Mais alors justement, le désir amoureux passe-t-il principalement par la sexualité ?
Et la sexualité, c'est l'ensemble. Je crois qu'il faut pas que vous fassiez une différence entre...
Moi, je ne fais rien, je me pose des questions. J'essaie de comprendre, moi, je suis une femme amoureuse. Voilà, c'est je ça. Voudrais aimer longtemps.
Le sentiment, voilà. Le sentiment, l'émotion, la sensibilité, la sensualité, la ce qu'on appelle vulgairement la sexualité, c'est-à-dire l'acte sexuel, le rapprochement des corps, tout ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler soit l'amour, soit la sexualité. Pour moi, ça ne fait aucune différence.
Très juste, très juste, très juste. Ah, on ne peut pas mettre... Même moi, je suis toujours choquée quand on parle de sexualité. Ça n'existe pas. On n'est pas... c'est pas de machine hors de nous. C'est
enfin,
nous.
Excusez-moi, Ariel, mais quand on regarde un film porno, on n'a pas l'impression qu'on parle de sexualité pour moi.
Justement,
enfin, c'est peut-être moi qui...
Non, parce que... Et c'est là, les films pornographiques, en fait, il ne faut pas les prendre au premier degré. Ce sont des mises en scène de fantasmes.
Voilà, hein,
et c'est pour ça qu'ils sont un peu choquants. Hein, ils sont bruts parce qu'ils font référence à la pulsion. Donc c'est quelque chose effectivement qui peut apparaître un peu mécanique, dénué de dialogue, mais c'est effectivement une face de la sexualité, notre sexualité fantasmatique, très proche à pulsion. Alors qu'on y trouve son compte ou pas, après c'est affaire de chacun. Hein.
Oui. On a Stéphane en ligne. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alexia, bonjour à vos invités.
Bonjour, alors vous, visiblement, vous fêtez doublement la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, parce que c'est la Saint-Valentin, et la Saint-Valentin, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années.
Oui, bah, c'est votre collaboratrice qui m'a fait me rendre compte de ça. Ma première intervention, c'était de dire comment la Saint-Valentin se fête, et est-ce que c'est pas trop souvent les hommes qui devraient fêter la Saint-Valentin, et est-ce que la femme n'est pas dans une attente, et si on la loupe, est-ce que ça gâcherait pas un peu les choses? Et votre collaboratrice, elle, à l'inverse, m'a fait constater qu'il y a 16 ans, bah, c'est mon épouse qui m'a fêté la Saint-Valentin en me demandant en mariage.
Ah, bah, comment elle l'a fait? Elle vous a invité au restaurant? Comment ça s'est passé?
Ah non, beaucoup plus simplement que ça. C'était plutôt une organisation de calendrier en me laissant entendre qu'on pourrait se fiancer un 14 février. Et comme d'habitude, les hommes, on plane peut-être un petit peu. Sur le coup, je dis, mais pourquoi un 14 février? Et là, j'ai constaté que c'était la Saint-Valentin. Je dis, ah d'accord, ok. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant. Donc, elle m'a demandé en fiançailles un 14 février. Et après, j'ai un peu plus réagi en disant, mais attends, si on se fiance, ça veut dire qu'on va se marier. Et
ah, ça, vous êtes, voilà. Vous êtes perspicace, Stéphane.
Oui, mais non, mais c'est dur. Peut-être sous le coup de l'émotion et du romantisme, je ne voyais pas où elle voulait en venir. Donc, je trouvais ça amusant qu'elle choisisse un 14 février pour me demander en fiançailles. Et après, j'ai compris que si on se fiançait, normalement, c'était pour se marier. Et donc, voilà.
Et qu'est-ce que vous faites ce soir, par exemple?
Eh ben alors justement, comme je disais, ça fait 16 ans. Ariel Dombal parle de l'amour, de l'entretien et de tout ce qui est tout beau, mais bon, il y a des hauts et des bas. Et cette année, je me dis, est-ce que si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que je me posais la question en attendant votre émission. Bon, et je me constate que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire quelque chose, donc je suis en train de réfléchir à fomenter, mais... Ça fait quelques années, je me dis, mais pourquoi c'est toujours nous les hommes qui devons, quelque part, c'est peut-être une mauvaise impression, devoir fêter la Saint-Valentin? Même un de vos invités en a parlé, les hommes doivent faire quelque chose.
Ah, c'est vrai, et on va demander ça justement à Nicolas Garraud. Nicolas, pourquoi les hommes se doivent de respecter la Saint-Valentin?
Parce que ça reste malgré tout une date symbolique, et ça permet d'entretenir l'amour. Et quand on l'oublie de toute façon, quand on rentre à la maison sans un bouquet de fleurs, ou sans un je t'aime, ou sans une surprise... on a le droit à une petite remontrance, donc ça reste quand même malgré tout une date incontournable. Et de plus en plus, nous on voit beaucoup de couples qui font appel à nous, même pour la Saint-Valentin, que ce soit pour les 10 ans de leur mariage ou leurs 15 ans, donc ils continuent à entretenir leur flamme de cette manière, même si c'est plus forcément l'amour-passion, c'est une manière pour eux de surprendre encore une fois leur épouse. Voilà.
Alors vous me racontez, parce que Stéphane, c'est donc sa femme qui l'a demandé d'une certaine façon en mariage. Maintenant vous le reconnaissez. Vous dites que souvent c'est des femmes qui vous appellent parce qu'elles ont peur de la manière dont leur futur mari vont leur demander un mariage. C'est une histoire de fou quand même.
Les temps changent. Et en fait oui, les amoureux ou les amoureuses qui font appel à nous représentent, 10% de ces amoureux sont des femmes et nous expliquent justement qu'elles ont un petit peu peur de leur futur demande en mariage, qu'elles ont peur d'être déçues, donc elles décident de prendre elles-mêmes les choses en main, de faire quelque chose de surprenant, de plutôt grandiose, et de surprendre leur chérie, même si c'est pas forcément encore dans les mœurs.
Alors justement, quelles sont les demandes surprenantes que vous ayez eues à orchestrer ?
Pour les femmes ?
Ouais. Dites-moi juste.
Alors, ce qui marche bien, c'est par exemple quelque chose qui est assez classique, mais qui est plutôt magique. C'est un dîner en amoureux sur un petit yacht. À un moment, on arrête le bateau sous le Pont des Arts à Paris, donc c'est un endroit très romantique.
Ça, vous me l'avez raconté.
Les lâchers de roses. Il y a également.
J'avais lu le saut au parachute, mais moi jamais vous me faites.
Non, les amoureux ne sautent pas en parachute. C'est un parachutiste qui arrive pour remettre à la dame un bouquet de fleurs.
Ah oui, ça c'est autre chose, d'accord. Parce que
mais il faut qu'il tombe au bon moment. C'est dans le jardin.
C'est dans le parc d'un château, mais ça c'est prévu.
Ah oui, il faut aller au château.
Ce qui marche le mieux, que ce soit pour les femmes ou les hommes, c'est on vient chercher les amoureux avec une Cadillac, on les amène à un aéroport privé avec tapis rouge, ils prennent place dans un avion, l'avion s'envole et en plein vol, en fait, la chanson préférée de l'amoureuse s'enclenche dans ses écouteurs et un deuxième avion surgit à leur côté pour laisser apparaître sur ses ailes un message.
Mais dites-moi, ça c'est James Bond, ça doit coûter très cher. Et pour les mini-budgets, j'espère que vous avez des idées aussi.
C'est parfois un petit peu hollywoodien, mais on s'adapte aux différentes demandes. Il y en a qui aiment des choses spectaculaires, d'autres plus intimes, d'autres en public, d'autres non, donc les demandes sont vraiment très différentes selon les...
Mais est-ce que parfois il vous arrive de conseiller un petit bouquet de violettes, tout simplement ?
En fait, les amoureux n'ont pas forcément besoin de nous pour offrir un bouquet de violettes. Nous, on est là pour les aider, en fait, dans leurs moments exceptionnels. Vraiment une date qu'ils veulent immortaliser.
Non, mais l'exceptionnel, c'est aussi le bouquet de violettes. En fait, je crois... Non, c'est très bien d'avoir recours à des mises en scène, etc. Mais c'est vrai que la simple manière de prouver son amour de manière très simple, mais de ne pas oublier ce jour qui est symbolique, la Saint-Valentin, ça, de manière très charmante et très profonde et très simple, et ben ça fait un effet bof.
Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu ce sentiment-là, que d'un seul coup on vous offrait, en l'occurrence votre homme, vous offrait quelque chose qui, où vous dites, ah ben voilà, je sais qu'il m'aime.
Oui, moi, vous savez, j'ai la chance de quelque chose que je mets au-dessus de tout, c'est-à-dire que mon amant de fiancé de mari me
c'est beau, non pas
voilà, me fait toujours me sentir comme la plus extraordinaire, la plus belle, celle qui est vraiment inégalable, etc. Et ça, pour une femme, il y a rien de plus délicieux. Je serais avec plus extraordinaire des types qui seraient en train de voir toutes les femmes et de me faire sentir comme une rien du tout. Je ne resterai pas une seconde avec lui parce que il ne faut pas oublier que l'amour, c'est avant tout exalter la personne à côté de soi, la rendre la plus belle, la plus inouïe. C'est ça qu'il faut. L'art d'aimer, c'est ça. C'est être dans le regard de l'autre la chose la plus précieuse.
Et à la fin, on a vraiment l'impression que vous faites justement, pour tenir ce regard,
oui,
vous-même, vous faites des efforts. C'est-à-dire que vous êtes dans une... Enfin, on vous voit belle.
Oui. Oui, bien sûr, j'essaie.
Vous faites en plus un rôle au Crazy,
oui,
qui quand même est très impliquant.
Ça, c'est très, très audacieux, mais ça fait partie de mon parcours d'actrice. C'est quelque chose c'est pour moi une audace artistique. Chanter live dans ce cabaret, temple du nu, pour moi, ça, c'est une chose très arrogante.
Vous interprétez 5 titres, c'est ça ?
Oui, oui.
Donc, et on vous voit danser, donc. Et chanter.
Voilà, voilà, voilà. Ça fait partie de mon métier. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de travail, artistique pour le faire. C'est vrai, je suis fière de cela. Mais par amour, je crois que pour les gens en général, au quotidien, il faut faire, il faut se mettre en valeur et ne pas laisser d'autres choses prendre le pas là-dessus. C'est-à-dire, ah tiens, on est furieux parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors on fait éclater sa mauvaise humeur. Voilà, ça c'est des tue-l'amour pour des bêtises.
Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai parce que c'est une interaction. On voit dans votre exemple que c'est une interaction. Votre mari sait vous mettre en valeur et vous, vous avez envie de lui rendre l'appareil. C'est-à-dire qu'il y a des couples où à partir du moment où il y a un maillon qui ne marche plus, c'est-à-dire que, par exemple, par hasard, si l'homme ne met plus sa femme en valeur, eh bien à ce moment-là, elle aura du mal à elle-même avoir envie de le séduire. Et puis c'est la spirale négative. Hein.
Mais c'est-à-dire que, enfin, moi c'est toujours ce que je me dis, vous faites énormément d'efforts, est-ce qu'en gros c'est de la faute des femmes à un moment qui se laissent aller? C'est-à-dire qu'il y a quand même la vie qui a un travail qui est compliqué. Et
il faut se garder de rechercher le fautif parce qu'à ce moment-là on rentre dans une récrimination négative. Hein. Dans un couple, quand quelque chose ne va pas, quand le désir s'est perdu, il faut oublier où est la poule, où est l'œuf, il faut chercher à repartir dans une interaction positive. Il faut que chacun se demande, au lieu de rechercher ce que l'autre n'a pas fait, il faut qu'il se tourne vers soi-même en se demandant ce qu'il peut faire pour remettre des éléments positifs dans le couple.
Guylaine Paris en parle très très bien. Et c'est vrai. Et puis en même temps, vous savez, chacun fait ce qu'il veut et tout est permis en amour. Il faut pas se donner de limites, je veux dire. L'important c'est d'être heureux, l'important c'est d'aimer, l'important c'est que ce soit intense, que le désir soit là, voilà.
Alors justement, on a Sophie en ligne. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexia, bonjour Ariel. Bonjour. Bonjour Guylaine.
Alors vous, ça fait 15 jours que vous pensez à cette soirée. Mais qui se passe ce soir?
Oh ben, des petites intentions très simples, mais bon, j'adore la cuisine. Et puis j'ai regardé sur Antenne 2 Sophie du Domaine qui nous a prévu chaque jour un petit apéritif, une entrée, une lotte, un petit dessert à deux. C'est fin, c'est raffiné. Et voilà. Et ce matin, j'étais toute fébrile de me lever pour commencer, pour me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis voilà. Puis j'ai acheté un joli petit cadeau. Nous ne sommes pas encore mariés, mais ça reste à faire, donc c'est encore très bien. Moi, quand ça reste à faire, je trouve que c'est le bonheur suprême. Donc, je lui ai offert une petite alliance.
Oh, mais ça, c'est beau ce matin?
Oui.
Oh, j'adore.
et puis voilà. Bon, il y a 2 ans, je lui ai fait ma demande en mariage parce que je trouvais qu'il tardait un petit peu. Et puis, lors d'une soirée un petit peu costumée, on devait se costumer en princesse ou en jeune mariée. Puis, princesse me disait pas et je me suis dit, jeune mariée, moi, je couds un petit peu. Donc, je me suis fait une petite robe moderne de mariée. Et puis, dans la chambre d'hôtel, je lui ai demandé en mariage. Mais ça me ferait presque tellement je suis heureuse.
Mais Sophie, est-ce que cette dynamique, justement, dans le couple, dans la demande, dans l'imagination, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine de ça?
De quoi?
De cette imagination, parce qu'à vous entendre, c'est vous qui trouvez les petits trucs pour réveiller le désir.
Oui, c'est moi, oui, parce que mon mari a une entreprise et travaille énormément. Alors disons qu'aussitôt que je propose une idée, il est tout de suite prêt, mais c'est vrai que c'est peut-être moi qui... Le matin, mon souci, c'est de savoir ce que je vais mettre, comment je vais me coiffer pour qu'il me dise que je suis belle. Et c'est vrai que tous les jours, il me dit que je suis belle.
Et ça, si un jour il ne vous le disait pas, vous ferait quoi? Vous auriez peur?
Non, j'ai totalement confiance. Et quand j'entends Ariel Dombal parler, je partage tout à fait ses paroles, parce que je trouve que c'est chaque jour, c'est pas après ça y est, je l'ai, c'est terminé, on est l'un à l'autre.
Fait combien de temps que vous êtes ensemble?
11 ans.
11 ans?
Oui.
Oh là, moi je pensais que c'était tout récent.
C'est une merveilleuse histoire d'amour.
11 ans, mais c'est magnifique.
Oui. J'ai eu une première histoire d'amour. Le papa de mes filles, nous nous sommes séparés parce qu'on n'avait plus le même chemin. Mais on s'entend toujours merveilleusement bien. Pour nos filles, nous sommes toujours là.
C'est votre histoire de cœur.
Voilà. Et puis j'ai eu deux histoires d'amour. Maintenant... Je suis merveilleusement heureuse, mais je pense qu'il faut se donner la peine. Et comme dit Ariel, rien n'est interdit. La demande de l'un doit être le bonheur de l'autre. Et, Et puis,
on va justement parler de l'attente de l'un et de l'autre. Ne quittez pas
ce
fiche.
En tout cas, bravo, quelle jolie amoureuse.
Et je rappelle que vous êtes avec Alexia Larajoubert de Racontons-nous, le thème d'aujourd'hui, comment entretenir le désir amoureux. Avec nous en studio, Ariel Dombal en représentation au Crazy Horse jusqu'au 21 février, avec deux shows par jour tout de même à 20h30 et 23h et même 3 le samedi. Et vous venez également de sortir un album, C'est si bon, chez Columbia. À ses côtés, Guylaine Paris, sexologue, auteur du livre Un désir si fragile, les ressorts cachés de la sexualité féminine aux éditions Le Duc. Et également Nicolas Garraud, fondateur de l'agence Apothéo Surprise. Alexia.
Alors justement, Guylaine Paris. Oh, voilà, je suis en plein milieu des jingles. Alors justement, Guylaine Paris, qu'est-ce qu'attendent les femmes? Et y a-t-il une attente différente entre les hommes et les femmes?
Alors, je crois qu'effectivement, il peut y avoir des différences. Il y a fondamentalement des différences entre les hommes et les femmes. C'est pas un scoop, hein, je crois. Mais ils attendent quand même tous les deux d'être aimés, hein, de façon différente sans doute. Mais ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin, comme on le disait tout à l'heure, de sexualité et d'amour. Alors, les femmes, elles ont envie d'être la plus belle. Ce que disait Ariel est tout à fait vrai. La plus belle, hein, la plus belle d'une soirée, la plus belle de la vie, la plus belle, c'est pour ça qu'elles supportent difficilement le manque d'attention. Hein. Elles ont envie qu'on leur dise, elles ont envie qu'on les rassure. Les hommes ont aussi envie qu'on les rassure. Alors, le témoignage précédent m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que cette auditrice explique que ça vient quand même d'elle, et c'est vrai que ça paraît évident. Elle donne l'explication que son conjoint a une vie très active, mais je pense que les hommes, je ne dirais pas qu'ils manquent d'imagination, je pense qu'ils n'ont pas assez confiance dans leur imagination. Et souvent, ils se reposent un peu sur leur compagne et c'est un peu dommage. Donc,
mais c'est quoi? C'est de la timidité?
Non, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu, j'allais dire, à la fois constitutionnel et culturel. On leur a trop dit qu'ils étaient plus physiques que mentaux, qu'ils avaient une sexualité, pas des sentiments. Et du côté de la femme, on a parlé beaucoup plus de séduction, on a encouragé cet aspect-là, le romantisme, etc. C'est vrai que moi, je souhaite de tout mon cœur que les choses changent et qu'elles évoluent et que les hommes prennent conscience qu'ils ont aussi une sensibilité, qu'ils ont besoin d'être aimés et qu'ils ont un imaginaire. Hein.
Vous avez l'impression, Ariel, justement, de dire à votre homme, soit lui en l'occurrence, il est écrivain, donc il est cinéaste, donc c'est plus... il l'est a priori créatif. Mais est-ce que vous avez l'impression que les hommes, justement, n'osent pas, parce qu'on leur a toujours dit, au final, toi, ta fonction, c'est d'être un peu sexuel?
Non, mais c'est vrai qu'il y a le poids de la société. L'homme, c'est le macho, c'est lui qui va à la guerre, c'est lui qui, dans les sociétés primitives, va tuer les gros gibiers et les ramène. Et la femme, c'est le repos du guerrier. Ça dure depuis 2000 ans. Alors c'est difficile d'effacer tout ce poids de la civilisation qui est là. Mais je crois que les hommes, en effet, on dit « Ah, envoyez-les à la guerre, ça en fera des hommes ». Mais en réalité, tout ça, c'est très culturel. Mais c'est vrai que les hommes sont diamétralement d'une autre planète que les femmes. Ça, c'est certain. Ça, je crois vraiment à une très, très grande différence de nature. Non seulement culturellement, mais voilà.
Mais est-ce que vous, justement, dans votre relation amoureuse, vous diriez plutôt que vous êtes tigrette, que vous êtes plutôt langoureuse, enfin quand...
Écoutez, je crois que toutes les femmes doivent savoir jouer tous les rôles à la fois. Il faut être de temps en temps, en effet, une amazone et de temps en temps un pauvre petit poulet chagriné, tremblant. Et d'ailleurs, on est tout ça. On est des gens qui, 24 heures par jour, on n'est pas la même. On est des gens sensibles, en perpétuelle mutation. Donc, il ne faut pas jouer un rôle et sans être tout à coup la femme autoritaire. On n'est pas ça. Je veux dire, on est quelqu'un de vivant.
Mais est-ce que vous avez l'impression que là, vous êtes nourrie de créativité? Et est-ce que vous avez l'impression qu'au final, vous avez peut-être pas plus de temps, plus de réceptivité par rapport à ça, contrairement aux femmes qui peut-être travaillent, aux hommes qui...
Mais bien sûr, vous savez, les artistes, les écrivains sont quand même dans un monde à part. On est perpétuellement dans le jeu entre les apparences, le vrai, le faux, tout ça est très, beaucoup plus complexe. Mais dans la vie de toutes les femmes, tous les jours, il faut savoir aussi quelle est la priorité. Voilà, on en revient toujours à ça. Si on aime l'amour, il faut se donner les moyens d'en faire la chose, d'en faire l'œuvre d'art de sa vie. Si on l'aime un peu moins et qu'il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires que la sensualité, etc., eh bien bon, on devient en effet une femme à pouvoir et ou je ne sais pas d'autres formes. Et...
C'est marrant parce que à vous entendre, il y a énormément de féminité, mais pas de féminisme. C'est-à-dire que et pourtant pour moi vous êtes une femme libérée. Donc c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire oui. que c'est quoi, c'est le doux mélange entre être à la fois une femme entre guillemets soumise et
oui,
à la fois
mais
être inventive et donc un oui. peu une femme libérée.
Oui, mais vous savez, oui,
il ne faut pas opposer féminité et féminisme. Non, enfin, non. Le féminisme dans le bon sens du terme, j'entends. Hein, c'est-à-dire que le bon féminisme, c'est la revendication de la différence. C'est savoir reconnaître des valeurs à chaque sexe et ne pas les opposer dans un rapport de force. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure. Au pouvoir ou bon la féminité c'est pas forcément se reconnaître féminine, c'est pas forcément se reconnaître soumise, parce que la soumission c'est un rapport de force. La soumission peut être jouée dans un jeu de rôle,
bien hein, sûr,
à partir du moment où tout le monde est d'accord que c'est un jeu de rôle.
Voilà, c'est ça.
On a Camille en ligne. Bonjour Camille.
Bonjour Alexia, bonjour tout le monde, bonjour Ariel.
Bonjour.
Alors vous, la Saint-Valentin, c'était un jour un peu particulier pour vous, il me semble,
Totalement,
Camille.
Totalement, parce que j'ai connu mon époux, mon futur époux, j'étais très jeune, nous devions passer le bac, et donc j'ai attendu quand même, il a attendu 6 ou 7 mois avant que j'accepte de me donner à lui le jour de la Saint-Valentin.
C'est incroyable. Vous voulez dire que vous avez fait l'amour pour la première fois le jour de la Saint-Valentin ?
Absolument. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que nous refaisons ça chaque année.
On refait l'amour une fois par an ?
Absolument, parce que ça nous rappelle nos 18 ans. Et pour moi, c'était tout symbolique, c'était un don de ma personne que je faisais, c'était quelque chose que j'offrais, et c'était très important. Et je vais vous dire une chose... nous fêtons nos 30 ans de mariage cette année. Je suis née en 57, donc j'ai 50 ans. Je tenais quand même à féliciter Ariel Dombal, qui est une femme magnifique, que j'adore et que j'apprécie énormément.
Eh bien, vous me faites très plaisir.
Écoutez, j'adore votre humour, j'adore votre culture. Et je vais vous dire une chose, vous devez être comblée avec un homme aussi intelligent que Bernard Henry.
Ah oui, et puis il faut dire que moi, s'il y a un homme romantique, enfin, avec sa chemise blanche légèrement ouverte, je trouve que c'est le romantisme incarné.
Ah oui, écoutez, que de sujets de conversation. Et alors, il y a une chose que je voulais dire, c'est que quand on veut perdurer l'amour comme cela, il faut avoir une admiration sincère vis-à-vis l'un de l'autre.
Ah,
c'est
oui.
très important.
Très important.
Justement, est-ce que c'est dans le respect de l'autre et dans l'admiration qu'on trouve les recettes de l'amour?
Absolument. Guylaine Paris. Moi, je pense que à un moment donné, j'ai arrêté de travailler dans ma vie pour élever mes enfants et mon mari m'a toujours admirée. Il ne m'a jamais, diminuée parce que je devenais une femme au foyer. Non, il trouvait j'aime écrire, j'aime lire, j'aime peindre. Il trouvait toujours des petits trucs pour me dire c'est bien, c'est magnifique. Et moi, dans son travail, j'ai trouvé qu'il évoluait bien, je l'admirais. Et ça, je pense que c'est très important.
Alors,
le respect mutuel que nous pouvons avoir.
Justement, Guylaine Paris, est-ce que l'admiration est sexuelle en fin de compte?
L'admiration n'est pas sexuelle. L'admiration est obligatoire pour qu'un couple dure. L'estime, le respect de l'autre, le respect de la particularité de chacun et le fait qu'on continue au fil des ans à trouver l'autre merveilleux. Hein, ça, c'est absolument obligatoire.
Les gens qui viennent vous consulter, est-ce que justement vous avez l'impression qu'ils ne se sentent plus respectés?
Quelquefois oui, et c'est un des éléments, j'allais dire, les plus graves dans un couple. Hein. Quand on arrive à rétablir le respect, ça peut fonctionner. Si ça n'est pas le cas, le couple est voué à l'échec.
Est-ce qu'il y a des choses justement qu'il ne faut jamais faire? Il y a des mots à ne jamais dire.
Justement, on dit souvent qu'un couple forcément s'oppose et qu'il y a des disputes. C'est vrai que c'est obligatoire, qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'on n'a pas toujours la capacité de garder son sang-froid. Mais il y a des mots effectivement qui font mal, des mots qui blessent l'autre ou qui rabaissent l'autre. Ou là, effectivement, ça reste de manière indélébile et ça peut fonctionner comme une empreinte négative.
Dans ce cas, comment on restaure la confiance et comment on restaure le respect?
Ça peut se faire encore, mais il faut laisser le temps faire son œuvre et puis petit à petit reconquérir l'autre, repartir à la conquête de l'autre.
Oui, alors très juste. C'est vrai, vous savez, il y a ce mot de Victor Hugo, les mots sont des êtres vivants. Mais c'est vrai que quelquefois, on dit des mots qui sont irréparables.
C'est... Vous faites attention à la manière dont vous parlez, parce que vous avez l'art du langage, justement.
Enfin, l'art du langage, je sais pas. Vous savez, je suis mexicaine. Hein, je fais des fautes d'orthographe et j'ai appris le français au lycée de Mexico. Donc non, je m'embrouille souvent les pinceaux. Mais je sais que les mots, c'est une chose très vivante, très. Ça fait partie absolument. Nous sommes des êtres sensuels parce que nous sommes aussi des êtres parlants.
Hein. Mais alors, quels sont les mots que vous dites vous qui ont ce vecteur un petit peu de séduction?
Ah, mais ça, je ne sais pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, de toute façon, en amour, on se dit les mots les plus torrides et les plus effrayants aussi. Mais ça fait partie du mystère de l'amour.
Et on se retrouve dans quelques instants avec Bénédicte, qui va bientôt fêter ses 25 ans de mariage et qui est amoureuse comme au premier jour.
Jean-Marc Morandini sur Europe 1, le journal de la télé le plus écouté.
Vous êtes 1 200 000 à nous écouter chaque jour.
Le journal télé le plus influent.
Étienne Moujotte, bonjour, merci d'être avec nous.
Dominique Baudis, bonjour.
Bonjour David Pujadas.
Le journal télé le plus insolent.
Mais arrêtez de dire ça, monsieur, ça n'est pas vrai.
Je suis certain que vous avez énormément de qualité, pas forcément celle-là.
Jean-Marc Morandini, le journal de la télé, du lundi au vendredi, 10h30 midi sur Europe 1. Et partout, quand vous voulez, sur europe1.fr. Leclerc vous donne plus de pouvoir d'achat.
Tiens, voilà Gaston, le fiancé de belle-maman.
Bonjour.
Pile à l'heure du café. Du café Jacques Vabre en promo chez Leclerc.
On se refuse à rien.
Leclerc, 50% de pouvoir d'achat en plus.
Mais qu'est-ce que vous êtes drôle.
C'est pas drôle, là.
Du 7 au 17 février, 50% de pouvoir d'achat en plus en gratuit et en ticket Leclerc sur le lot de 2 paquets de 250 grammes de café moulu pur arabica Jacques Vabre sur présentation de votre carte Leclerc. Enfin, modalité dans le magasin participant.
C'est bon.
Ouais, les 50% de pouvoir d'achat en plus.
Ça aussi, oui.
Ça goûte. C'est réglé.
Ça fuit.
C'est fait.
Ça déborde.
C'est bon.
En moyenne, un plombier transporte 10 tonnes de matériel par mois. Votre travail est exceptionnel. Votre utilitaire doit l'être aussi.
En ce moment, chez Citroën, profitez de 3750 euros de remise hors taxe sur le nouveau Jumper avec une charge utile allant jusqu'à 2 tonnes. Élu véhicule utilitaire de l'année par l'Argus.
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
Remise non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 19 mai. Tarif général VU du 23-12-06.
Vous êtes avec Alexia Laroche-Joubert dans Racontons-nous, le thème d'aujourd'hui, comment entretenir le désir amoureux, avec nous en studio Ariel Dombal, en représentation au Crazy Horse jusqu'au 21 février. À ses côtés, Guylaine Paris, qui est sexologue, et Nicolas Garraud, fondateur de l'agence Apothéo Surprise.
On prend tout de suite Alexandra. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle de désir. Donc, vous avez 31 ans et justement, vous nous dites que le désir est peut-être trop présent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'en écoutant votre émission, je me disais que je me retrouvais parfaitement dans ce qui était dit et par les intervenants et par vos invités autour de la notion d'amour, parce que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est bien plus charmant que le prince charmant que j'imaginais quand j'étais petite. Ça fait 7 ans que ça dure et c'est un bonheur quotidien vraiment renouvelé. Mais en même temps, les seuls moments de notre vie commune dans lesquels on se rend malheureux en fait l'un l'autre, c'est par rapport à la question de la sexualité. Donc ce que vous disiez tout à l'heure m'interrogeait, en fait, en tout cas ce que disait Madame Paris, parce qu'on se dit que quand on essaye d'y réfléchir ensemble, on réalise qu'on a tellement peur, en fait, et l'un et l'autre, de se décevoir, de pas se contenter, de pas se faire rêver, de pas générer de désir chez l'autre, alors qu'on s'aime vraiment comme des malades. Ça nous met une pression qui fait que, au final, on a l'impression que dans ces périodes-là, on n'arrive plus à s'aimer autant qu'on s'aime à l'horizontale, autant qu'on s'aime à la verticale, si je puis me permettre. Et du coup, c'est super compliqué, parce que je me dis qu'on est quand même dans une société qui...
Sexuellement, c'est-à-dire que vous avez des attentes l'un et l'autre, que vous n'arrivez pas à rejoindre, c'est-à-dire que vous avez peur de décevoir l'autre sexuellement, c'est ça?
Oui, c'est pas en termes d'attente, je pense. C'est surtout que je crois qu'on est tellement, en fait, dans une société qui met la barre haute, en fait, par rapport à la question en termes de contenter l'autre, d'avoir du sex appeal, de tout ça, qu'en fait, je crois qu'on a toujours peur, dans le fantasme de ce que l'autre attendrait ou aimerait ou aurait besoin pour s'épanouir, toujours peur d'être pas à la hauteur, je pense. C'est que du coup, on a tellement peur de se perdre l'un l'autre, en fait, que la question de la sexualité, c'est vraiment quelque chose de symptomatique.
Alors, justement, on va faire réagir Guylaine Paris, qui vous écoutait.
Oui, je réagis tout de suite parce que c'est les propos que vous venez de tenir, je les entends quotidiennement dans mon cabinet. Donc, vous êtes loin de la seule à avoir ce type de problème. Votre problème, il vient effectivement, comme vous l'avez très bien analysé, de la pression que vous vous mettez et la pression de la société qui donne une image qui est complètement contrefaite de la... Votre sexualité, elle vous appartient. Hein. J'ai envie de dire qu'elle est beaucoup plus à votre portée que vous ne le pensez. Contentez-vous de ressentir, contentez-vous d'accueillir sans vous mettre d'obligations et d'objectifs. La barre, elle ne doit être ni haute ni basse, elle doit être tout simplement être accueillie là où elle est. Et si vous cessez d'être les spectateurs de votre sexualité et que vous devenez les acteurs, vous aurez certainement beaucoup plus de satisfaction et de bonheur.
Mais le problème aussi, c'est quand on a toujours l'impression, quand on est dans l'acte sexuel, que si on ne réussit pas cet acte-là, c'est comme si on disait je ne t'aime pas.
Ça n'est pas un examen. Hein.
Et oui,
la réussite, c'est de ressentir des choses fortes et de pouvoir les partager avec l'autre. Donc chacun est responsable de ses ressentis et le partage se fait automatiquement quand chacun prend soin d'être à fond. Alors on parlait d'abandon tout à l'heure, d'être dans ce lâcher-prise, dans cette transe amoureuse où on a une intensité du ressenti. Et c'est ce partage qui tout naturellement. Et si quelquefois on ne l'atteint pas, ça n'est pas très grave. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une ratée. Ça veut dire que tout simplement, c'est des choses qu'on n'obtient pas chaque fois. Que c'est quand on l'obtient, ben c'est la fête, c'est bon, c'est le bonheur. Et puis quelquefois, c'est un peu moins intense, mais ça n'est pas grave.
Ouais, et pourtant, quand même, moi je trouve qu'il y a toujours le regard de l'autre qui fait que la prochaine fois on se dit oh là là, j'ai raté celle-ci, je vais rater la prochaine fois. Il y a un côté constamment se mettre d'enchaînement d'échecs.
Oui. Mais ça c'est une chose, c'est une pression tellement absurde parce que rien n'est obligatoire. On fait ce qu'on veut dans la vie. On prend son pied comme on veut et où on veut et avec qui on veut. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas un qui surveille l'autre. Ah, ceci. Et puis, il ne faut pas, je crois, analyser, disséquer et avoir le sens du devoir vis-à-vis de l'amour. Il n'y a absolument, on ne doit rien à
on
personne.
On ne peut pas rater quelque chose à partir du moment où on n'a rien à réussir.
Bah, hein? C'est pas un challenge, c'est pas la société qui vous demande, toi, tu dois être rien, on fait ce qu'on veut.
Imaginez que vous alliez au concert et que vous soyez une amatrice de musique et que vous vous disiez, il faut absolument que je réussisse mon concert, ça n'aurait pas de sens. Vous y allez avec l'idée que vous allez prendre du plaisir, vous ne savez pas l'intensité de votre émotion et vous accueillez l'émotion qui arrive.
Alexandra?
Oui.
Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous comprenez d'une certaine façon qu'il faut que vous vous ressentiez sans automatiquement vous dire absolument ce que l'autre ressent? Est-ce que vous arrivez vous pensez que ça serait une solution?
Oui, tout à fait. Après, sauf que je me dis bien évidemment dans l'idéal arriver à dissocier les affaires et à lâcher prise, ça serait merveilleux. L'idée, c'est que je crois que de façon intrinsèque, la notion de sexualité, de désir et de sensualité est quand même très très liée à la notion d'attachement. Que du coup, quand on a l'impression que l'homme qu'on aime se dit si la sensualité n'y est, la sensualité sexuelle, j'entends, n'y est pas, et ben c'est peut-être que l'amour n'y est pas non plus. Du coup, on anticipe sur ce que ça devrait être. Du coup, on met la pression. Du coup, le lâcher prise est très très loin d'être atteint. Et mais du coup, ça complexifie les affaires.
Alors, moi, je voudrais juste faire intervenir Nicolas. Nicolas, est-ce qu'il y a justement dans des déclarations des ratés complets?
Non, parce qu'on évite justement de répondre aux attentes de personnes qui voudraient faire appel à nous pour reconquérir quelqu'un. C'est vraiment important. On voit les amoureux, nous, lorsqu'ils sont dans une situation stable, qu'ils ont quelque chose de sérieux, et on les accompagne dans leur...
Mais dites-moi, s'il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui pleure, mais moi, elle ne m'aime plus, aidez-moi, qu'est-ce que vous faites alors?
Ça nous est déjà arrivé. Oui. On dit que malheureusement... Ben oui, c'est pas notre rôle, en fait. On n'est pas là pour imaginer un petit peu la situation. On met en scène toute une déclaration d'amour et ça se termine mal. Non, on est vraiment là pour accompagner les personnes qui s'aiment pour un moment intense, pour un anniversaire de mariage, voilà un événement important. On n'est pas là pour les mettre mal à l'aise ou pour forcer la main à quelqu'un, c'est important.
Guylaine Paris, est-ce qu'il y a des cas où, moi par exemple, si on m'offre des sous-vêtements, je pourrais le vivre mal en me disant, voilà, je suis résumée à un objet.
Ah oui, ça aussi on l'entend quelquefois. Alors effectivement, il faut faire très attention quand on fait un cadeau, il faut essayer de rentrer en empathie avec celui qui va le recevoir. Un homme peut très bien offrir des sous-vêtements à sa compagne à partir du moment où il sent que porter ses sous-vêtements va lui faire plaisir à elle, elle va se sentir belle, désirable, elle va se sentir valorisée. Si au contraire, elle sent que le cadeau, c'est uniquement pour se faire plaisir à lui, c'est-à-dire qu'il aura déguisé, entre guillemets, sa compagne pour qu'elle lui plaise, elle va se sentir reléguée à une place d'objet que l'on a modifié pour le bon plaisir de l'autre. Donc ça, c'est pas... Donc c'est vrai que c'est tout en nuance, ça peut basculer d'une position à une autre. Moi, j'ai une patiente qui refusait les sous-vêtements que lui offrait son compagnon et qui, à côté, s'en achetait elle. Donc...
Donc, voilà. ça c'est un peu tout le paradoxe. Vous avez, Ariel décide de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que c'est pour donner cette primeur au couple?
Oh non, ça vous savez, l'histoire des enfants, c'est quelque chose de très complexe que je ne m'explique même pas très bien moi-même. Mais j'ai décidé ça très tôt. J'avais pas envie d'avoir d'enfant. Je voulais être la dernière. Voilà, je voulais réussir ma vie sans enfant.
Donc vous serez une amante?
Voilà.
À tout jamais.
Voilà.
Et justement, je voulais vous faire, c'est juste ma dernière question. Il y a une très jolie phrase que j'ai entendue lors d'une interview radio d'Isabelle Huppert qui dit « On peut aimer pour toujours, mais pas tous les jours ».
Ah oui, eh bien non, moi j'aime tous les jours. Et pour toujours, ça ne me semble vouloir rien dire. Pour moi, j'aime l'instant et une idée d'éternité, mais j'aime l'instant. C'est chaque instant qui compte.
Est-ce que vous avez un petit conseil justement aux éditrices qui nous écoutent? Parce que pour moi, vous représentez pour beaucoup de femmes le glamour, l'amante, la beauté.
Oh, mais ça me fait très plaisir. Je crois que toutes les femmes, moi j'ai une immense admiration pour les femmes. J'adore les femmes. Et pour moi, il y a, les femmes ont un secret, elles ont un mystère, elles ont la tendresse, cette chose extraordinaire, elles ont le mystère, quoi. Donc il n'y a pas de définition, il n'y a pas de règles.
Aimer, chacun, quoi, on raconte aimer
et exalter l'autre et avoir la jouissance d'avoir cette personne à aimer à côté de soi.
Alors vous allez voir que demain c'est autre chose.
Bon, alors c'est vrai que toute l'émission là on a parlé des moyens d'entretenir le désir amoureux. Demain nous recevrons Catherine Laborde pour qui l'infidélité peut renforcer le couple.
Donc, peut-être que Guylaine nous expliquera ça.
On écoute d'ailleurs Catherine Laborde.
Peut-être qu'au fond, la douce joie d'être trompée, c'est tout simplement la joie d'aimer après la tromperie. Et peut-être que cette épreuve de la tromperie, qui est évidemment douloureuse, suffocante et tout ça, peut-être que après cette épreuve, quand l'amour est toujours là, c'est encore mieux. Peut-être. Je dis peut-être parce que je ne parle que de ce que j'ai pu éprouver.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'unanimité dans le studio. Ariel Dombal, en tout cas, oui. Vous êtes au Crazy Horse.
Oui.
Jusqu'au 21 février, des jours de prolongation. Donc, toutes les personnes qui attendent pour vous voir chanter et puis pour vous voir magnifique comme ça dans ce rôle incroyable. Oui. Évidemment, merci à Nicolas Garraud. Donc, les garçons, vous pouvez encore l'appeler pour préparer votre Saint-Valentin de ce soir.
Et les femmes.
Ah oui, les femmes. Merci beaucoup, Guylaine Paris. Je rappelle que la parution de votre ouvrage, Un désir si fragile, est sorti aux éditions Le Duc. On retrouve dans quelques instants Frédéric Taddeï avec son invité, l'actrice de porno